Radio Vatican, Français Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue et merci d'être à l'écoute des Radios Vatican. L'actualité de l'Église de cette nouvelle édition de notre programme est marquée notamment par les dons du pape d'une ambulance pour les pauvres, en particulier les sans-abri de la ville de Rome. Nous y reviendrons tout à l'heure avant de vous rendre compte des activités qui ont marqué l'Église Famille des Dieux au Bénin, en Côte d'Ivoire et en République démocratique du Congo. Pour ce qui est de l'actualité sociopolitique africaine, nous nous rendrons en Algérie, au Rwanda, en République démocratique du Congo, entre autres. À toutes et à tous, bienvenue à l'écoute des Radios Vatican.
Radio Vatican, Français Afrique, Camille Moukosso.
Le pape François a béni une ambulance qu'il a confiée à l'aumônerie apostolique le 30 mai dernier pour le pauvre de Rome. Cette ambulance immatriculée au Vatican était auparavant utilisée pour des opérations de sauvetage dans l'état de la cité du Vatican. Elle a été mise en disposition par les gouvernorats à l'aumônerie apostolique sur décision du Saint-Père pour venir en aide aux sans-abri qui vivent les difficultés de la rue et cherchent refuge autour du Vatican ou dans des abris des fortunes à Rome. L'ambulance devrait accompagner les autres initiatives d'assistance médicale de l'aumônerie apostolique, comme celle de la clinique ambulatoire mobile, utilisée principalement pour apporter des soins aux plus pauvres et aux plus marginalisés dans les banlieues de Rome, ou celle de la clinique ambulatoire Mère de la Miséricorde installée sous la colonnade des Saint-Pierre, afin d'offrir une première intervention médicale aux sans-abri et qui a continué à servir pendant toute la période des crises sanitaires provoquées par la COVID-19. L'ambulance pourra venir en aide en particulier aux personnes marginalisées auprès desquelles d'autres équipes de secours refusent d'intervenir. Suivant les orientations du motto proprio du pape François, Vos Exit Lux Mundi, l'archidiocèse d'Abuja au Nigeria s'est dotée d'un comité pour la protection des mineurs et des personnes vulnérables. En inaugurant les travaux du comité, Mgr Ignatius Kayingama a souligné qu'il veillera à la bonne application des lignes directrices qui contiennent également une réflexion sur l'aptitude au ministère de toute personne au sein de son archidiocèse. Les principaux objectifs de ces procédures sont la sécurité des mineurs, la protection de personnes vulnérables, le bien-être de la communauté et l'intégrité de l'Église, a souligné le prélat. Pour sa part, le président du comité nouvellement mis en place, le père Christopher Nobia, a remercié l'archevêque pour la tâche délicate à laquelle il a été appelé, en soulignant qu'avec Dieu à leur côté, lui et son équipe s'efforceront de mener à bien cette tâche en faveur du salut des âmes des mineurs et des personnes le plus vulnérables. Face aux conséquences désastreuses de la COVID-19 qui a fait des ravages dans les moyens de subsistance des populations africaines, les évêques du continent, sous couvert du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, proposent la remise de la dette comme une des solutions possibles. L'archevêque de Ouagadougou, le cardinal Philippe Ouédraogo, président du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, a déclaré que l'Église africaine avait lancé un appel urgent à l'annulation de la dette compte tenu des effets désastreux de la pandémie du nouveau coronavirus. À en croire le prélat, des initiatives ont déjà été prises dans la gestion de l'impact de la pandémie. L'Église voudrait cependant aller plus loin et plaider pour l'annulation massive de la dette des pays africains afin de leur permettre de relancer leurs économies. Ainsi, les évêques africains plaident pour qu'une aide substantielle soit accordée aux pays afin de soutenir la mise en place des systèmes de soins de qualité. Allons au Bénin pour parler de la fête de la Pentecôte présidée par l'archevêque de Cotonou, Mgr Roger Ungbeji, le dimanche 31 mai dernier. Reportage.
Il vaut mieux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. C'est cette promesse du Christ ressuscité à ses disciples qui a permis à l'archevêque de Cotonou au Bénin, Mgr Roger Ungbeji, le dimanche 31 mai 2020, de méditer avec ses fidèles les textes de la liturgie de la parole de Dieu au cours de la messe de la fête de Pentecôte qu'il a célébrée à l'archevêché de Cotonou en sa chapelle privée. L'occasion lui a été donnée de relever trois actions majeures qui témoignent de la présence de l'Esprit-Saint dans la vie de nos églises.
La première action c'est l'œuvre d'unité. Le deuxième point de notre méditation, oui, la présence de l'Esprit en nous, c'est le lieu où il nous donne un langage nouveau, un langage à utiliser comme un don de Dieu. Le troisième point de notre méditation, oui, l'action qui témoigne de la présence de l'Esprit en nous consiste justement à jeter des ponts entre les hommes, au lieu d'ériger des murs de séparation et d'exclusion entre nous.
Et Monseigneur l'archevêque de préciser.
Oui, la fête d'aujourd'hui nous rappelle que chacun de nous, de par son baptême dans la mort et la résurrection du Christ, a reçu en plénitude les dons de cet esprit. Ne laissons pas ces dons s'éteindre en nous.
Guy Dosuyovo, Cotonou pour Radio Vatican.
En Côte d'Ivoire, la récitation de la prière du chapelet avec le pape François le samedi 30 mai dernier a été vécue par les fidèles ivoiriens dans un profond recueillement. L'événement a été suivi par un nombre considérable de fidèles dans le monde. Les fidèles chrétiens ont confié avec le pape les souffrances de l'humanité en ces temps des crises provoquées par la pandémie du nouveau coronavirus. Parmi les deux sanctuaires choisis en Afrique pour cette récitation du chapelet figuraient les sanctuaires marial national Notre-Dame de toute grâce d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Les fidèles venus se sont joints aux intentions de l'évêque de Rome en même temps qu'ils ont prié pour leur pays et l'Afrique où la pandémie continue de progresser. Pour le père recteur Eugène Andingra, c'était un clin d'œil de la Vierge Marie à la Côte d'Ivoire. Plus de détails avec notre correspondant à Abidjan.
Je vous salue Marie.
Le chapelet en main, le regard tourné vers Marie, les fidèles ivoiriens ont répondu massivement à l'appel du pape pour confier les plaintes de cette humanité rongée par tant de maux, surtout la pandémie de la Covid-19, méditation du chapelet, chant de louange et récitation de la litanie de la Sainte Vierge ont marqué ce temps de prière en union avec le pape François et toute l'église. Parmi ces fidèles présents, Marie-Thérèse Michéa du mouvement Maria Rosa Mystica.
C'est une grâce pour nous que notre sanctuaire ici a été retenu pour prier en communion avec le pape. Ne pouvant que dire merci à la Vierge Marie, la mère de Christ, ne cesse de prier chaque jour pour nous afin que vraiment nous puissions éradiquer cette pandémie du coronavirus et qu'elle puisse continuer à protéger l'humanité entière. C'est une joie pour nous d'avoir participé avec le pape à cette prière du chapelet.
Et pour le père recteur Eugène Adingra qui a coordonné cette prière avec le pape dans ce sanctuaire, cette prière est un clin d'œil que la Vierge Marie fait à la Côte d'Ivoire.
Et c'est le signe aussi que la Côte d'Ivoire est véritablement un pays marial. Et ça, c'est fort. À travers ce choix, il faut comprendre combien de fois Marie a véritablement porté et elle porte ce pays dans son cœur. Et pour nous, c'est une joie. Ça nous réconforte encore dans notre dévotion mariale de travailler et de faire avancer l'œuvre de la Vierge. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons prié. Et vous avez vu, malgré le confinement, le peuple a vraiment répondu à cet appel et nous avons prié, demandé à la Vierge Marie d'intercéder pour nous.
Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Notre correspondant en République démocratique du Congo nous a fait écho de la retraite et tridoum des prières mariales sur la radio catholique de Lissala.
Au diocèse de Lissala, dans la province de la Mongala, les messes publiques sont encore suspendues depuis l'état d'urgence décrété par le président de la République. Mais à Lissala comme ailleurs, la radio diocésaine rassemble à distance les fidèles autour de l'Eucharistie retransmise chaque matin. Le studio de Radio Lissanga a été aussi le cadre du jeudi 28 au samedi 30 mai pour la retraite et les tridômes de prière mariale organisés par le bureau de la coordination diocésaine du Conseil pour l'apostolat des laïcs catholiques du Congo à l'occasion de la fin du mois marial et de la solennité de la Pentecôte. Monsieur l'abbé Constant Songhi, curé de la cathédrale Notre-Dame auxiliatrice de Lissala, a proposé le thème « Recevez le don du Saint-Esprit » et réserver de la place à Marie, mère du Rédempteur et mère de l'Église. Les fidèles ont imploré la puissance du Saint-Esprit et ils ont déposé les nombreuses souffrances de l'humanité aggravées par la crise du coronavirus. Ils se sont unis dans la prière à l'ensemble du peuple de Dieu dans le monde en temps de confinement. La crise sanitaire mondiale oblige la radio diocésaine Lissanga à remplir ainsi le rôle qui est le sien en s'appelant Lissanga, communauté en langue lingala. Ainsi l'a expliqué le directeur des programmes Faustin Onombili. Il a annoncé par ailleurs le début de la retransmission quotidienne des programmes de Radio Vatican Français-Afrique grâce au podcast disponible sur Internet. Jean-Baptiste Malenge Kalonzu pour Radio Vatican.
Quelqu'un que vous connaissez vous envoie des conseils d'un expert contre le coronavirus. Attention, l'expert n'est peut-être pas authentique. Une façon de manipuler l'information consiste à recourir à un faux expert pour ajouter plus de crédibilité au message. Vérifiez toujours qui est cet expert et quelle organisation il représente. Pendant l'épidémie de Covid-19, ne faites confiance qu'aux sources d'informations officielles et aux médias crédibles. Ne partagez pas d'informations non vérifiées. Ceci est un message de l'UNESCO.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
C'est par les dossiers nouveaux coronavirus que nous ouvrons l'actualité sociopolitique africaine. Les autorités sénégalaises ont décidé de reporter les retours à l'école quelques heures seulement avant l'échéance prévue mardi pour des centaines de milliers d'élèves. La reprise est repoussée jusqu'à une date ultérieure, a indiqué le ministre de l'Éducation nationale sans préciser la nouvelle date. Le ministère évoque la découverte de la contamination d'enseignants en Casamance, dans le sud du pays. En Afrique du Sud, la police a rapporté mardi le cambriolage d'un magasin d'alcool fermé lors du confinement anti-coronavirus. Les employés d'une grande surface du district de Newton à Johannesburg ont découvert vendredi dernier un grand trou dans les sols près d'un frigo par lesquels de suspects ont pu pénétrer à partir des tunnels souterrains, a expliqué le porte-parole de la police. Pendant 9 semaines, le gouvernement d'Afrique du Sud a interdit la vente des bières, vins, alcool fort ou autres spiritueux dans le pays afin de limiter les violences et réduire la fréquentation des services d'urgence hospitaliers. Les autorités tunisiennes ont annoncé lundi l'ouverture à partir du 27 juin prochain des frontières terrestres, aériennes et maritimes qui avaient été fermées mi-mars afin de ralentir la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus. L'instance nationale des luttes contre le coronavirus a décidé de l'ouverture de toutes les frontières. Les déplacements entre les gouvernorats seront autorisés à partir du 4 juin prochain.
Radio Vatican, France-Afrique. Camille Moukoso.
L'avocat de Félicien Kabuga, accusé d'être le financier du génocide au Rwanda, a écrit mardi à un procureur des Nations Unies afin que la justice internationale se dessaisisse du dossier. Dans sa lettre, l'avocat met en avant plusieurs arguments pour appuyer sa demande. L'état de la santé et l'âge de son client, qui a 84 ans selon la justice et 87 ans selon ses propres dires. Un supposé manque d'impartialité de la justice internationale à son égard, ou encore un meilleur système de santé en France comparé à la Tanzanie, où il est prévu que Félicien Kabuga soit transféré. L'attaque contre un convoi humanitaire par des groupes armés terroristes samedi a fait au moins 13 morts et 6 portés disparus à Barsalogo dans le nord du Burkina Faso, selon un nouveau bilan donné lundi par le gouverneur de la région du centre et nord. Au moins 4 personnes sont mortes dans les villages de Milende dans l'est de la République démocratique du Congo lors d'une nouvelle tuerie attribuée au groupe armé des forces démocratiques alliées aux confins du Nord Kivu et de l'Ituri, a indiqué lundi l'administrateur du territoire de Beni, Dona Kibwana. Dans un autre registre, des ONG ont appelé lundi le président Félix Tshisekedi à démettre de ses fonctions l'inspecteur général des armées, le général John Numbi, considéré comme le suspect numéro 1 dans la mort des 2 défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo. 2 des principales figures du mouvement des contestations en Algérie-Irak vont bénéficier prochainement d'une grâce présidentielle et être libérés, a annoncé mardi Sofiane Djilaï, chef d'un parti d'opposition qui a intercédé à leur faveur. Le président Abdelmadjid Tebboune m'a rassuré qu'il userait de ses prérogatives constitutionnelles pour que Karim Tabou et Samir Albi retrouvent leur liberté, a déclaré M. Djalali, reçu à sa demande par le chef d'État algérien.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Marie-Josée Moindo-Boisboileau nous présente notre magazine sur les développements.
« Le magazine sur le développement concerne la réponse que réclament les dirigeants de la planète en vue d'une coopération appropriée après la pandémie due au coronavirus. Lors d'une vaste visioconférence de l'ONU sur le financement du développement jeudi dernier, une cinquantaine de dirigeants ont réclamé davantage de résilience et de coopération dans le monde d'après la pandémie. Ne laisser personne derrière, tel doit être l'objectif, a souligné dans une vidéo enregistrée le premier ministre italien Giuseppe Conte lors de l'événement co-organisé avec le Canada et la Jamaïque. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a indiqué que le monde a besoin d'être innovant et de penser hors du cadre habituel. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est félicité d'avoir assisté à une réunion de solidarité. Après la suspension de dettes pour les pays les plus vulnérables, il a réclamé d'aller plus loin avec des mesures de réduction de cette dette dans le cadre d'une solidarité basée sur les besoins et la transparence. Parmi les intervenants, le président de Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani, a appelé à l'annulation systématique et immédiate de la dette. Le secrétaire général de l'ONU a minimisé l'absence des États-Unis, de la Chine et de la Russie dans les interventions des dirigeants. Ces pays ne pouvaient pas être représentés au plus haut niveau pour une question d'agenda, mais ils participeront aux 6 groupes de travail créés dans la foulée de la réunion avec des rendez-vous prévus fin juillet à la mi-septembre et la mi-décembre. Ces groupes doivent notamment travailler sur la vulnérabilité des pays développés, la stabilité financière, l'espace fiscal ou l'adéquation des politiques de reconstruction avec les objectifs de développement durable définis pour 2030. Au nombre de 17, couvrant des domaines divers comme le climat, la biodiversité, l'énergie, l'eau, la pauvreté, l'égalité des genres, la prospérité économique, la paix, l'agriculture ou l'éducation, ces objectifs sont plus cruciaux que jamais, a estimé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Plusieurs dirigeants comme la chancelière allemande Angela Merkel ou le président français Emmanuel Macron ont jugé que la crise actuelle pouvait être une opportunité pour développer une économie plus résiliente, favorisant notamment la lutte contre le réchauffement climatique. En déplorant une remise en cause profonde du multilatéralisme, Emmanuel Macron a souligné que la coopération s'imposait pour une santé pour tous, un appui aux pays les plus fragiles, principalement en Afrique, et les actions en faveur de l'environnement et de la biodiversité. Le monde d'après doit être dominé par la solidarité et non le profit, a fait valoir le président du Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, tandis que le premier ministre britannique, Boris Johnson, espérait un élan pour reconstruire mieux. Nous devons travailler ensemble à travers les frontières pour éviter une nouvelle pandémie et remettre le monde en route, a ajouté le responsable britannique. Un plaidoyer partagé par les présidents du Kenya, Uhuru Kenyatta, qui a réclamé une solidarité mondiale, et du Sénégal, Macky Sall, qui a demandé un monde plus juste et plus solidaire. Nous devons travailler les uns avec les autres car nous sommes tous interconnectés, a résumé le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, lors de la conférence de presse.
Place à la rubrique sur l'œcuménisme et dialogue interreligieux avec Françoise Niamia.
Commençons notre rubrique consacrée à l'œcuménisme et au dialogue interreligieux par le message de Pentecôte publié le 30 mai dernier, message intitulé « Des vagues de désespoir, des langues de feu ». Ce message, signé par les présidents des différentes régions du Conseil œcuménique des Églises, réfléchit à la présence toute puissante de Dieu et rappelle que l'Église est née dans le tumulte et a émergé du chaos avec un message puissant qui change véritablement la vie et s'adapte à toutes les cultures et à tous les contextes. Il doit en être de même aujourd'hui que lors de la première Pentecôte, souligne le message du Conseil œcuménique pour les Églises, qui par ailleurs fait remarquer qu'une force naturelle, silencieuse, invisible et létale a envahi notre monde. Le nouveau coronavirus bouleverse le monde, semant la terreur et le chaos, infectant des millions de malades et causant la mort de centaines de milliers de personnes. Le virus invisible a dévasté les économies, mis à mal les familles et la vie communautaire, échappé aux systèmes de santé les plus sophistiqués à l'échelle locale et mondiale et provoqué une recrudescence de la famine. Pourtant, en cette Pentecôte, à travers les siècles et les continents, les chrétiens et chrétiennes sont liés les uns aux autres et à ses premiers disciples pour proclamer, comme ils l'ont fait avec force, que le Dieu de la vie est toujours avec nous. Le message de Pentecôte du Conseil œcuménique des Églises se termine en demandant au Seigneur son esprit afin qu'il élève les cœurs et insuffle le courage d'affronter la douleur et la souffrance. La conférence épiscopale des évêques de Côte d'Ivoire a assuré toute la communauté musulmane de sa proximité spirituelle suite à la mort du cheikh Bouakary Fofana, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques du pays. Chef suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, le cheikh Aïma Bouakary Fofana est mort le dimanche 17 mai dernier à Abidjan à l'âge de 77 ans. Grande figure du dialogue interreligieux dans le pays, le cheikh Bouakary Fofana, affectueusement surnommé Aboubakar Fofana, a joué un rôle décisif dans la structuration de l'islam moderne en Côte d'Ivoire. Au cours des 4 dernières années, il a effectivement injecté un véritable dynamisme au sein de la communauté, en particulier en promouvant la naissance de nombreuses associations communautaires. Il a constamment fait preuve d'intérêt pour l'acceptation réciproque entre les musulmans et entre cette communauté et les membres des autres religions. Saluant la mémoire de l'illustre disparu, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a fait savoir qu'il était un homme de foi, artisan de paix et de dialogue entre les confessions religieuses. En République démocratique du Congo, la Conférence épiscopale nationale de ce pays, CENCO, l'Église du Christ au Congo, ECC, et l'Union européenne ont signé le vendredi 22 mai dernier à Kinshasa le projet d'appui à la prévention contre la COVID-19 en République démocratique du Congo par la communication pour le changement de comportement pendant et après la pandémie. Avec un financement de 2 millions d'euros et de l'Union européenne, la Commission épiscopale à justice et paix pour le compte de la CENCO et la cellule justice, paix et sauvegarde de la création de l'ECC vont exécuter le projet sur terrain. Lors de la mise en œuvre des activités de ce projet sur terrain, la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo vont associer les membres des autres confessions religieuses et sont appelés à construire des synergies avec les autres organisations de la société civile qui ont des initiatives similaires sur le terrain.
Parole aux auditeurs.
C'est Marie-Clémence, paroisse catholique anglophone Foi Pie XII à Lomé au Togo. Pour la première fois de ma vie, je suis obligée de ne pas aller à la messe les dimanches. Le confinement, le couvre-feu, les ports de cache-nez. J'ai vécu cela au début comme un film de science-fiction. Heureusement, ma foi en Christ n'a pas été ébranlée et je prie encore plus. Notre Dieu est vivant et présent. Il finira par exaucer nos prières et supplications à propos de cette pandémie, car notre secours est dans son nom. Union de prière. Merci. Radio Vatican.
Je m'appelle Mathias Komla Adjarako, de la paroisse Sainte Maria Goretti de Bekota. Le COVID-19 nous impose ses lois et nous devons nous conformer. Mais dans tout cela, nous qui sommes chrétiens, devons-nous avoir peur? Pas du tout. Dans Philippiens 4, verset 6, la Bible dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Je prends ce temps de confinement comme un temps d'étude biblique. Moi qui auparavant revenais du travail autour de 20h, cette fois-ci déjà à 18h, je suis à la maison parce qu'il y a couvre-feu. Une fois arrivé à la maison, et après avoir observé l'une des mesures barrières qui est le lavage des mains, je prends ma Bible et je lis quelques chapitres avant même de manger. Certes, le COVID-19 a modifié notre mode de vie, a endeuillé de nombreuses familles et a rendu les familles encore plus vulnérables. Mais Dans tout cela, nous devons nous attacher plus à Dieu, parce que seule la parole de Dieu nous donne plus d'espérance. Loué soit Jésus-Christ.
Moi, c'est Saint-Pice Moulage. Je suis étudiant en théologie à Saint-Paul à Lubumbashi, dans la ville du Haut-Katanga, en République démocratique du Congo. Pendant ces temps de confinement, il y a tant de réalités et tant d'événements qui se passent à nos côtés, en face de nous. Nous devons avoir un œil tout à fait particulier en tant que d'abord chrétien et par surcroît en tant que catholique. Ce temps de confinement est tout à fait particulier. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour nous avoir montré son amour en nous gardant en vie jusqu'à nos jours. Ce temps de confinement, c'est un temps qui me rapproche de la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Mais alors, nous manquons cela. J'appelle tout le monde pour que nous puissions vivre ces temps en union de prière, en union avec l'Église universelle dans nos milieux où nous sommes enfermés.
Pour nos auditeurs qui souhaiteraient partager avec nous leurs différentes expériences en cette période de pandémie de COVID-19, envoyez un message vocal via WhatsApp au numéro 0039 351 505 93 03. 0039 351 505 93 03.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que se renferme cette édition de notre programme qui vous a été présentée par Camille Moukosso. À toutes et à tous, merci de votre fidélité aux ondes des radios Vatican. Les prochains rendez-vous, c'est pour demain. Même heure, même fréquence, même radio.